Radio Cité Genève, Viviane DeWitt.
La bouteille à moitié pleine.
Bonjour, vous êtes sur Radio Cité Genève, 92.2 FM, dans La bouteille à moitié pleine. Aujourd'hui, je reçois un journaliste, écrivain, scénariste français de passage à Genève. Bonjour Olivier.
Bonjour Viviane.
Il s'agit d'Olivier Guèze. Olivier Guèze qui a écrit beaucoup de livres, qui a collaboré à énormément de journaux, on va le voir tout à l'heure, pour que nos auditeurs sachent tout de suite qui il est. Vous avez travaillé comme journaliste, je crois, dans la plupart des grands médias du monde.
Disons que j'ai écrit dans un certain nombre de grands médias, oui, c'est exact.
Ah oui, on va les citer, par exemple, le New York Times, Le Monde, le Frankfurter Allgemeine Zeitung, le Figaro, Figaro Magazine, l'Express, Le Point, Il Folio.
Le Corriere de la Sera, maintenant.
Effectivement,
j'ai fait un certain nombre de rédactions. Ça m'a
c'est
toujours amusé.
C'est important de le savoir.
Ça m'a toujours amusé de collaborer aux grands journaux, aux grands journaux occidentaux. C'était un rêve de gamin de publier dans le New York Times, par exemple.
Alors justement, on va en parler. Parce que vous savez, il y a une question rituelle dans cette émission. Mm-hmm. Quel petit garçon étiez-vous?
Bonne question. J'étais un petit garçon. Je crois que j'ai toujours été attiré par l'extérieur. Donc moi j'ai grandi à Strasbourg et j'étais fasciné à l'idée de franchir la frontière. Et
ah
je
bon
racontais
donc d'aller en Allemagne.
Aller en Allemagne, mais c'était l'Allemagne parce que l'Allemagne c'était la porte d'à côté, mais c'était l'idée de la frontière, c'était d'aller à l'étranger.
Voyager en gros.
Oui, c'était les prémices du voyageur que je deviendrais. Mais je me souviens par exemple avec j'avais deux petites sœurs, elles ont un peu grandi depuis, mais et je leur racontais des histoires, je leur disais allez on va aller à l'extérieur, à l'étranger, il faut que vous me payiez d'ailleurs un peu pour les douanes, et donc j'exploitais mes petites sœurs.
Oh là là, que c'était vilain.
J'étais très vilain, j'étais vilain et voyageur déjà.
Alors, vous étiez bon à l'école?
Plutôt, oui. Enfin, ça dépend des périodes, ça dépend des matières aussi, mais oui, j'étais plutôt bon.
Parce que j'ai été assez impressionné de voir que vous avez fait London School of Economics, qui est quand même l'une des très belles écoles du monde.
Oui, c'est une université magnifique, je ouais. confirme. Je
oui,
confirme.
Non mais très difficile d'y rentrer aussi.
Peut-être.
Oui.
Enfin, moi, j'y suis rentré.
Soyez pas
donc,
modeste, Olivier. Non, soyez pas modeste. On est là pour expliquer qui vous êtes.
Très bien, très bien.
On a beaucoup de
chance
de vous avoir aujourd'hui.
C'est très, très difficile d'entrer à la London School of Economics et j'ai un immense mérite. Vous avez raison.
Voilà. En fait, on va expliquer à nos auditeurs ce matin. Vous êtes arrivé hier de Bratislava, je
oui,
crois.
Oui, absolument.
Vous avez fait un saut à Paris. On a eu la chance de vous entendre hier soir à la Société de lecture de Genève, qui est un endroit magnifique d'ailleurs. J'en profite pour dire ça à nos auditeurs. C'est dans un vieil hôtel particulier de la vieille ville, dans un grand hôtel particulier de la vieille ville. Magnifique. Et on a eu la chance donc de vous écouter parler d'un livre dont on va parler tout à l'heure, mais pas que, parce que vous avez écrit aussi beaucoup de livres, vous avez même fait un scénario. Donc on va voir tout ça dans l'ordre. Moi, je veux continuer à parler du jeune homme que vous étiez. Je veux savoir comment c'est venu quand même, cette vocation.
J'ai toujours été fasciné par la chose écrite, j'ai toujours été fasciné par les livres, par les journaux, mais je crois que sincèrement, peut-être quelques semaines où... J'envisageais éventuellement de devenir footballeur professionnel.
Ah oui, parce que ça, c'est une passion aussi.
J'ai beaucoup écrit sur le football. J'ai beaucoup joué plus jeune. J'ai vraiment beaucoup écrit sur le football. Donc à part quelques semaines, quelques jours ou quelques heures, je savais que j'écrirais. J'écrirais dans les journaux, que je serais reporter. Enfin, j'avais cette image du grand reporter, du voyageur, de l'écrivain voyageur, oui.
Vos parents étaient journalistes? Non, je crois pas, mais ils étaient médecins.
Oui.
L'un et l'autre.
Oui, mon père était gynéco, ma mère était pédiatre, donc c'était pas du tout
vous
des voyageurs.
Vous avez un peu trouvé un canard, là, alors?
Oui, parce que dans ces familles, il n'y a pas du tout une tradition, pas du tout littéraire, pas du tout artistique, on va dire.
Et vos petites sœurs, elles ont fait des choses similaires à vous?
Non, l'une est médecin et l'autre est avocate.
Bon.
Donc je suis le vilain petit canard de cette famille.
Alors, le premier livre, qu'est-ce que c'est?
Alors, le premier livre, je dirais que c'est un faux livre. C'est un livre que j'aime pas particulièrement, qui s'appelait La Grande Alliance, que j'avais coécrit avec un garçon qui s'appelle Frédéric Ancel. Je ne garde pas un souvenir émérite de cette aventure-là.
Oui, mais c'est la première fois quand même que vous avez
oui,
fait la plume.
Oui, oui, la plume. J'étais déjà journaliste. On va dire que pour moi, mon vrai premier livre, c'est L'Impossible Retour. Que j'écris quand je vis à Berlin. Donc là, on est au milieu des années 2000, qui est un livre important pour moi dans mon parcours, et qui va me permettre par la suite et d'écrire ce film et d'écrire Joseph Mengele, et qui me permet vraiment de découvrir le monde germanique, la langue germanique. Donc ça, c'est un passage très 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 important.
À quel moment êtes-vous allé vivre à Berlin?
Je suis parti en 2005, donc j'avais 31 ans à l'époque.
Et là, pourquoi?
Je voulais déjà quitter la France, j'ai toujours eu des rapports un peu compliqués. J'ai toujours trouvé que les Français étaient trop auto-centrés, trop nombrilistes. En tout cas, quelqu'un comme moi qui suis né sur une frontière, qui a toujours vécu dans plusieurs cultures. J'avais déjà passé un certain nombre d'années à l'étranger pour mes études, 2 ans en Angleterre. J'avais vécu en Belgique, j'avais vécu un peu au Nicaragua. Et j'aimais déjà voyager.
Au Nicaragua? Oui, au Nicaragua. Vous expliquez ça quand même?
Oh, c'est très simple. Ma fiancée de...
J'étais sûr que c'était ça, que vous étiez tombé amoureux.
Ma fiancée de l'époque était espagnole. Elle travaillait pour la Commission européenne. Et donc, elle a eu un premier poste à Managua. Et je l'ai retrouvé pendant une demi-année en Amérique centrale. Et donc là, je suis tombé follement amoureux de la région. Ça a été mon sas vers l'Amérique latine, vers la langue espagnole. Donc quand on a eu toutes ces expériences-là, se retrouver dans un pays, dans une ville qui passe son temps à se regarder le nombril et qui a peu d'intérêt pour le reste du monde, pour l'Europe.
Strasbourg, l'Europe quand même.
Mais Strasbourg, mais j'avais quitté. Je parle de la France en règle générale. Il me manquait toujours quelque chose. Donc c'est l'une des raisons pour laquelle... Et puis la France venait de dire non au traité constitutionnel en 2005. Je trouvais que c'était pas bon signe. 3 ans plus tôt, Jean-Marie Le Pen avait été au second tour aussi. Et puis Berlin à l'époque, c'était la grande capitale de la bohème européenne. Et puis j'avais ce projet d'écrire sur l'histoire des Juifs en Allemagne, après-guerre, depuis la guerre. J'ai eu une bourse du Sénat de la ville de Berlin, dans le cadre d'un programme à la Freie Universität de Berlin. Et c'était parti. Donc j'ai quitté mon boulot de journaliste. J'ai été salarié quelques années au début de ma carrière. Et donc je me suis installé en Allemagne.
Alors ce livre donc parle l'impossible retour. C'est l'impossible retour des Juifs en Allemagne. C'est bien ça.
C'est l'histoire. En fait, j'ai voulu comprendre. L'origine, la genèse, il y a plusieurs origines, mais en tout cas la vraie genèse de ce livre, c'est un article que j'avais lu, je me souviens, j'étais au Brésil. Ça faisait la une de l'International Herald Tribune, comme on disait à l'époque, donc le New York Times international d'aujourd'hui, qui racontait que l'Allemagne était devenue la première foyer des migrations des Juifs d'ex-Union soviétique. Que depuis la... Entre la chute de l'Union soviétique et donc début 2005, plus de 200 000 Juifs s'étaient installés.
Et donc, ce qui est assez paradoxal, effectivement, voilà. Compte tenu de ce qui s'était passé.
J'ai voulu comprendre quelle était l'histoire, en fait, entre 1945, donc la Shoah, la destruction complète d'un cosmos, et 60 ans plus tard, l'Allemagne, qui terre d'accueil de ces Juifs. J'ai voulu comprendre qu'est-ce qui s'était passé, quel avait été le rapport des Allemands à leur mémoire, et puis surtout raconter des parcours de vie. Dans les Allemagnes, en Allemagne de l'Ouest, en Allemagne de l'Est, puis en Allemagne réunifiée. Et donc c'est comme ça que j'ai eu cette bourse du Sénat de la ville de Berlin, et c'est comme ça que je me suis installé là-bas. Et donc ma vie a changé après, ça a été un grand tournant.
Qu'est-ce qu'on écoute maintenant? Vous avez choisi...
Qu'est-ce qui irait bien avec ça?
La Trans-Europe Express, c'est pas mal, hein?
Trans-Europe Express, oui.
Alors on l'écoute.
Radio Cité Genève, Viviane De Witt.
La bouteille à moitié pleine.
Düsseldorf City. Meet Iggy Pop and David Bowie. Trans Europe Express. Trans Europe Express. Trans Europe Express. Trans Europe Express.
Vous êtes sur Radio Cité Genève, 92.2 FM, dans la bouteille à moitié pleine, avec Olivier Guèze, journaliste, écrivain, scénariste et globetrotteur, comme nous avons vu. Alors, mon cher Olivier, on va parler maintenant du livre qui a suivi l'impossible retour. Mm-hmm. Qu'est-ce que c'était ?
C'était La chute du mur.
Donc, on est toujours en Allemagne, on est toujours centré sur l'Allemagne.
On est toujours centré sur l'Allemagne, donc je vis toujours à Berlin. Et j'avais envie d'écrire un livre sur la chute du mur qui ressemblait ou qui ressemblerait à Paris brûle-t-il. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez un événement cathartique de l'histoire européenne ou de l'histoire mondiale. Et puis, évidemment, vous avez une multitude d'acteurs. Des activistes... dans le cadre de Paris brûle-t-il, des résistants, des collaborateurs, des nazis, des américains, des gaullistes, et puis tous ces hommes, toutes ces femmes convergent le 24 août à Paris pour la libération de la ville. Et fondamentalement, la chute du mur fonctionne un peu de cette façon. C'est-à-dire que vous avez une espèce de didascalie, une unité de lieu et de temps, où vous avez une multitude d'acteurs, les activistes, les dirigeants est-allemands, les dirigeants ouest-allemands, les dirigeants soviétiques, le KGB, la CIA, des berlinois de l'ouest, de l'est, et tous ces gens convergent vers l'événement fondamental qu'est la chute du mur. Donc ça, c'était le projet que j'ai écrit avec Jean-Marc Gonin.
Et alors, le livre se passe à quel moment exact ? Est-ce que c'est le moment de la chute du mur ?
Ou est-ce que c'est un mois plus tôt, à la visite de Mikhail Gorbatchev à Berlin-Est, le 9 octobre. C'est l'anniversaire, c'est les 40 ans de la RDA. Et ce jour-là, il va lui donner le baiser du serpent, le baiser du tueur. C'est-à-dire que pour Gorbatchev, Honecker, qui dirigeait l'Allemagne de l'Est à l'époque, était condamné. Il n'était plus dans l'air du temps.
Et ça arrive.
Ça arrive, absolument. Et donc, on raconte ce mois entre cette visite et l'événement exceptionnel, joyeux de la chute du mur de Berlin, le 9 novembre. 89.
Il y avait tant d'espoir à l'époque.
Il y avait énormément d'espoir. C'était sublime. Mmh. Elles sont, quand on revoit les images de cette nuit-là, elles sont incroyablement émouvantes.
Oui.
Il y a, c'est rare quand même que l'histoire soit aussi joyeuse. Il n'y a pas eu un coup de feu.
C'est vrai.
Pas un coup de feu, ça a été comme vraiment comme une marée humaine, quoi. Presque comme la mer rouge qui s'ouvre, un miracle, littéralement un miracle. Moi j'étais tout gamin, j'avais 15 ans à l'époque, mais je me souviens des années 80, j'étais allé à Berlin-Est avec mes parents en 84, j'avais fait un tour en Tchécoslovaquie en 88. C'était des pays cadenassés, c'était des pays gris, c'était des pays surveillés.
À Berlin, il y avait des checkpoints partout.
L'omniprésence, des services secrets, de la police politique, c'était horrible. Et personne ne pensait que, déjà que le mur s'effondrerait, ou en tout cas que ça prendrait des années et des années, voire des décennies, et puis surtout sans aucune violence. Donc il y a eu un miracle européen à ce moment-là, qui m'a évidemment beaucoup marqué, et qui a très certainement influencé mon parcours par la suite.
Alors après, vous avez changé complètement de lieu, vous n'étiez probablement plus à Berlin, ou je ne sais pas si vous avez écrit ce livre, American Spleen. Ça, c'est un voyage au cœur du déclin américain, en quelque
Tout
sorte.
Tout à fait, absolument. Non, je ne vivais plus à Berlin, et pour ce livre, je suis logiquement parti quelques mois aux États-Unis. J'étais assez fasciné par ce qu'on appelait le mouvement des Tea Party il y a une dizaine d'années, qui avait été un mouvement de réaction à la grande crise économique des subprimes à la fin des années 2000. Et puis des petites communautés comme ça s'étaient mises en place pour contester avec une grande violence, avec une grande virulence, Et fondamentalement,
c'était l'Amérique des gilets jaunes, en fait. C'était les gilets jaunes américains.
Absolument, c'était tout à fait les gilets jaunes américains, mais qui à l'époque n'avaient pas de leader charismatique. Trump n'était
pas plus que les gilets jaunes, d'ailleurs.
Non, en France, ils ne l'ont toujours pas trouvé, fort heureusement. Mais aux États-Unis, ce leader, évidemment, va être incarné par Donald Trump quelques années plus tard. Et donc, je suis parti à la découverte de cette Amérique. J'ai fait un très long voyage de la frontière mexicaine en Arizona jusqu'à Chicago, donc à travers les Rocheuses et les Grandes Plaines. Et j'allais dire que j'en suis revenu effroyablement déprimé de ce voyage. Ah oui, ça, j'étais très proche des États-Unis, j'y allais beaucoup. Et
vous alliez à New York et vous voyez la grande Amérique conquérante, c'est
non,
ça ?
Disons, je ne faisais pas que les extrémités, les côtes. Mais là, c'était la première fois que je passais autant de temps dans l'Amérique profonde. Et j'ai été absolument effrayé. Effrayé par la violence, l'inculture, la bêtise. Des gens totalement paumés, totalement égarés. Quelque part, les États-Unis avaient, comme souvent, 5 à 10 ans d'avance sur le reste de l'Occident. Mais j'avais trouvé ça extrêmement, extrêmement inquiétant. Et depuis, j'ai pris beaucoup de recul vis-à-vis des États-Unis.
Olivier, en 2014, vous écrivez « Éloge de l'esquive ».
Oui.
Alors ça, c'est bizarre.
Pourquoi bizarre ?
Bah parce que l'esquive.
Oui.
L'esquive, c'est esquiver, donc c'est échapper.
C'est
vous n'avez fait au contraire qu'être présent, qu'être allé au contact, qu'être allé au contact des réalités différentes, vous avez des pays différents, des gens différents. Mm-hmm. Et puis là, vous voulez vous esquiver. Qu'est-ce qui se passe là ?
Non, moi je raconte, donc on l'a dit, j'adore le football. Et je trouve qu'on peut raconter beaucoup d'histoires.
C'est l'esquive du football.
On peut raconter beaucoup d'histoires grâce au football. Et donc c'est un livre sur le dribble. Et le dribble, c'est l'art de l'esquive.
Tout à
fait. C'est l'art d'éviter son adversaire en inventant des tours de passe-passe d'une certaine manière. Et un petit peu comme Henri Laborie avait écrit Éloge de la fuite, moi j'ai écrit Éloge de l'esquive. Et donc, à partir du dribble, au Brésil, je raconte l'histoire de la culture noire.
Il y a Maradona à l'époque là-bas, non ?
Non, Maradona est en Argentine.
Argentine, voilà, c'est vrai, pardon.
Vous dites ça à un Brésilien ou un Argentin, il vous étripe. Oui, vous ne sortez pas vivant de la pièce. Non, j'ai écrit par la suite sur le football argentin. Donc j'ai raconté cette histoire-là et donc j'ai eu la chance de passer plus d'un mois à Rio pour raconter l'histoire du dribble au Brésil.
Vous avez écrit à propos du football une passion absurde et dévorante.
Oui, ça c'est mon deuxième
c'est
livre sur le football.
Ça.
Oui, qui est sorti l'an dernier.
Mais c'est pas si absurde que ça pour le coup.
Oh si, c'est quand même assez absurde d'aimer, de se passionner pour le football d'une certaine façon. Enfin, disons l'engouement que suscite l'opposition de deux équipes de 11 joueurs à pousser un ballon dans des filets est assez absurde. L'importance économique, médiatique, politique, financière qu'a prise le football est assez absurde. Le fait qu'un petit garçon jusqu'à la mort, puisse comme ça se passionner, aller au stade, acheter des maillots, enfin vraiment, c'est quelque part rester un enfant.
Il n'y a pas
que
des petits garçons qui se passionnent.
Non, rester un enfant. C'est-à-dire, voilà. Le football vous permet de rester un enfant toute votre vie, d'une certaine manière. Il y a une dimension absurde. Et puis l'autre dimension absurde, en tout cas me concernant, c'est ce qu'est devenu le football. On sait que c'est vraiment un sale business quand même, hein, au niveau des instances internationales. C'est-à-dire que la Coupe du Monde ait lieu au Qatar, qu'elle ait eu lieu en Russie il y a 4 ans, toutes les magouilles, la corruption, c'est vraiment sale. Ou le PSG du Qatar, ce qui n'a absolument aucun sens, mais il n'empêche qu'on retombe toujours dedans. Donc c'est absurde.
C'est une addiction. Qu'est-ce qu'on écoute maintenant ?
Qu'est-ce qui pourrait bien aller ? On va écouter, ça c'est un groupe que j'adore, puisque je passe beaucoup de temps en voiture, on va écouter Carry On de Crosby, Stills & Nash.
Radio Cité Genève, Viviane DeVitt,
la bouteille à moitié pleine.
One morning, I woke up and I knew it all. A new day, a new way, and new eyes receive it all. Go your way, I'll go mine. The sky is clearing and the night is brighter. The sun, he come, the world's all up. Rejoice, rejoice, we have no choice. Fortunes of fables are able. Now witness the quickness with which we evolve to sing the blues.
You got to live the blues before.
Vous êtes sur Radio Cité Genève, 92.2 FM, dans la bouteille à moitié pleine, avec un journaliste, écrivain, scénariste français de passage à Genève, Olivier Guèze. Olivier, on a déjà parlé de beaucoup de choses vous concernant, parce qu'il y en a, il y en a tellement que j'ai l'impression qu'on pourrait faire trois émissions.
Au moins.
Et maintenant, je voudrais parler du Grand Tour, l'autoportrait de l'Europe par ses écrivains. C'est un ouvrage collectif, je crois, mais ça m'a beaucoup intrigué, ça aussi.
Oui, j'aime bien changer de genre. Comme
je m'en suis aperçu.
Comme vous le voyez.
Nos auditeurs aussi.
J'aime bien être là où on ne m'attend pas. C'est un livre qui est sorti donc il y a peu de temps, il y a deux mois, début mars, dans le cadre de la présidence française de l'Union européenne. Et c'est un panorama de la littérature européenne contemporaine, dont j'ai été l'initiateur, et j'ai demandé à 27 écrivains européens, un par pays membre, de raconter un lieu qui évoque la culture ou l'histoire européenne.
Alors comment vous les avez choisis ?
Comment je les ai choisis ? Eh bien, soit j'en connaissais quelques-uns personnellement, c'était des amis, j'avais envie de travailler avec eux, soit je les admirais. Et donc je leur ai proposé de collaborer, et puis pour certains pays dont j'avoue je ne connaissais pas d'écrivains contemporains, j'ai été aidé par les services culturels des ambassades de France, puisque ce livre fait partie du programme officiel, du programme culturel de la présidence française de l'Union européenne.
Superbe.
Vous le dites.
Alors là, on en a fini avec les essais, maintenant on va attaquer les romans.
Tout à fait.
Nos auditeurs vont être étonnés parce qu'ils ont dû penser qu'on était arrivé au bout de l'histoire.
Mais pas du tout, hein.
Alors, il y a Les Révolutions de Jacques Coscas.
Yes.
En 2014.
Tout à fait.
Aux éditions Bellefond.
Oui.
Vous avez beaucoup changé d'éditeur. Il y a Flammarion, il y a...
Alors, j'ai beaucoup changé au
Fayard,
début.
Il y a Grasset.
J'ai beaucoup changé au début, mais là
vous
c'est Grasset.
Fidèle. Oh, mais en vieillissant, on devient fidèle.
Ça simplifie les choses, probablement. Oui, là c'est un contrat de longue durée avec Grasset, même si quelquefois il y a quelques petites infidélités. Mais fondamentalement, c'est devenu mon éditeur.
On va voir ça tout à l'heure.
J'ai tâtonné au début, j'ai tâtonné comme tout le monde.
Oui, c'est normal.
Comme tout le monde, on ne sait pas. Enfin, surtout quand on connaît pas ce monde-là, qui est quand même assez opaque de l'extérieur.
Parfait.
On ne sait pas à qui s'adresser, c'est un peu le hasard.
On a eu Joël Dicker il n'y a pas longtemps à votre place, et effectivement, il nous a raconté ses tribulations. Il a même dit maintenant, d'ailleurs, monter
lui,
sa propre maison
auto,
d'édition.
Auto-éditeur, il s'auto-édite.
Exactement.
Donc oui, on tâtonne. Si on n'est pas du Cénacle, c'est très difficile au départ,
ouais.
Très difficile.
Alors, Les Révolutions de Jacques Coscas.
Mm-hmm.
Racontez-nous.
Ah, alors là, c'est encore totalement différent. C'est une tragicomédie. C'est l'histoire d'un jeune homme qui s'appelle Jacques Coscas. C'est un roman qui aurait pu s'appeler Clivage. Donc il est très, très divisé sur bien des points, à la fois sur ce qu'il voudrait faire dans la vie et sur ce qu'il fait vis-à-vis de l'amour, vis-à-vis des femmes. C'est un coureur, mais il cherche le grand amour. Vis-à-vis du sexe aussi, son approche du sexe, vis-à-vis de la géographie, vis-à-vis de tout, vis-à-vis de sa judéité également. Et donc ce sont les aventures tragicomiques d'un anti-héros contemporain dont... la France et dans l'Europe des années 2000. C'est, il n'y avait pas la littérature juive nord-américaine a produit un certain nombre d'anti-héros de ce genre. Mais en Europe, pas tellement. Probablement, évidemment, lié à l'histoire du continent, qui est plus tragique que comique, soyons clairs. Ou alors, du côté séfarade, on n'a pas cette tradition littéraire. Donc j'ai voulu faire un Zuckerman ou un Portnoy européen.
D'accord. Alors maintenant, on va aborder un livre extraordinaire dont on a beaucoup parlé. Vous avez parlé longuement hier soir, la Société de lecture de Genève.
Je continue de parler, bien qu'il ait 4-5 ans.
C'est formidable, même si c'est un livre... je crois qu'il est paru en 2017, mais il faut que nos éditeurs le lisent. Moi, j'ai quand même fait l'effort de le lire entre hier soir et ce matin, et je ne le regrette pas.
C'est pour ça que vous avez l'air un peu fatigué, Viviane. On va taguer toute la nuit.
Est-ce vrai ?
Non, ce n'est pas vrai.
C'est une blague. Bon. Vous savez que quand on dit aux gens qu'ils sont fatigués, ils se sentent immédiatement épuisés. Mais ça n'est pas mon cas.
Non, vous n'avez pas l'air.
Donc, je reviens à Olivier Guez, La disparition de Joseph Mengele. Mm-hmm. Je dois dire qu'hier soir, vous m'avez assez fasciné. Parce que lorsque j'avais entendu parler du livre, bien sûr, comme beaucoup de gens, puisqu'il a eu le prix Renaudot, mais je n'avais pas envie, à vrai dire, de me plonger dans cette histoire, parce que me plonger dans toutes les turpitudes de cet homme qui a pour moi incarné, pour tout le monde, incarné le diable sur Terre, c'était pas ce que j'avais envie de faire. Mais là, vous l'avez abordé de façon extrêmement différente, puisqu'en fait, vous l'abordez quand il a quitté l'Allemagne et qu'il est déchu et qu'il lutte pour sa survie.
Oui.
Et ça, c'est absolument passionnant. J'aimerais qu'on en parle. J'incite beaucoup nos auditeurs à acheter ce livre, donc qui est paru, alors cette fois-ci, il est paru aux éditions...
Alors ça, c'est le livre de poche.
C'est le livre de poche, oui, c'est celui que j'ai trouvé.
Il sortira en 18, oui.
Il y a peut-être d'autres versions.
Oui, le grand format, c'est plus
chic.
Le grand
format. Donc, la disparition de Joseph Mengele par Olivier Guèze, prix Renaudot. On en parle maintenant, mon cher Olivier. Comment c'est venu, cette histoire, dans votre tête ?
Oh, cette histoire, elle est venue parce qu'en fait, elle complète le triptyque que j'avais commencé avec l'impossible retour. En fait, je voulais faire un cycle sur l'Europe d'après-guerre, centré sur l'Allemagne. Mais le cas de l'Allemagne est assez emblématique, mais au fond, il s'est passé des choses assez comparables après-guerre en France ou en Italie. C'est-à-dire que comment gérer les crimes, comment gérer les criminels, comment reconstruire une société, épurée, pas épurée, qui épurée, comment épurée, amnistier. Et donc dans l'impossible retour, je racontais l'Allemagne d'après-guerre, mais du côté des victimes. Mais à l'époque déjà, je voulais raconter la même histoire, mais du côté d'un bourreau, d'un meurtrier, d'un grand meurtrier. Et puis en écrivant le scénario d'un film, qui est un film allemand, qui s'appelle Der Staat gegen Fritz Bauer,
On va en parler tout à l'heure.
Fritz Bauer, un héros allemand, on racontait l'histoire de la traque d'Eichmann. Et donc j'ai beaucoup travaillé sur l'Argentine de l'époque, puisqu'Eichmann est là-bas, et donc à plusieurs reprises j'ai croisé Mengele. Et là je me suis dit, voilà, je le tiens, mon criminel, je vais raconter cette histoire-là par ce biais, en fait.
On va en parler bien plus avant tout à l'heure, mais en attendant, on écoute quelque chose qui va un peu nous remettre de cette perspective.
C'est vrai, un petit peu de musique austro-allemande, un peu de Beethoven, la 5e symphonie.
Radio Cité Genève, Viviane De Witt.
La bouteille à moitié pleine.
Vous êtes sur Radio Cité Genève, 92.2 FM, dans la bouteille à moitié pleine, avec Olivier Guèze, journaliste, écrivain, scénariste. Vous avez vu que Olivier a écrit beaucoup de livres, beaucoup d'essais, beaucoup de romans. Et cette fois-ci, nous parlons d'un livre qui n'est pas récent puisqu'il est paru en 2017, mais c'est un livre très important et je voudrais qu'on lui consacre du temps ici aujourd'hui ce matin parce que je voudrais que nos auditeurs se précipitent pour l'acheter. C'est La disparition de Joseph Mengele et qui a été d'ailleurs un prix Renaudot. Alors Olivier, on l'a dit tout à l'heure, vous n'avez pas choisi de parler du médecin triomphant, habillé de blanc, qui torturait ses semblables et qui faisait les pires horreurs, aussi bien sur des bébés que sur des adultes. Vous avez choisi de parler de l'homme déchu.
Mmh. Et j'ai pas voulu non plus... les victimes n'ont pas la parole non plus dans ce livre. C'est vraiment un livre consacré aux meurtriers après le crime, en fait. C'est-à-dire, qu'est-ce que la vie réserve à un criminel de cet acabit ? Est-ce qu'elle le punit ou pas ? Il s'est caché 30 ans en Amérique du Sud. Pourquoi ? Comment ? Qui l'a aidé ? Pourquoi est-ce qu'il n'a jamais été attrapé ? Café.
Ça, c'est une bonne question. Pourquoi est-ce qu'il n'a jamais été attrapé ? Parce qu'en fait, il y a eu une série de contretemps.
Il y a eu différentes choses, on va pas tout,
pour
ceux qui n'ont pas encore lu.
Non, on va pas tout dévoiler ce matin.
C'est quand même l'histoire de la traque, mais, déjà, il est le fils d'une famille richissime. Donc, il a énormément aidé, qui lui a permis de se cacher. Deuxièmement, parce qu'on n'a pas toujours, dans les années 50, on ne parle pas du tout de, enfin, la Seconde Guerre mondiale est totalement refoulée. Personne ne veut en parler. Ni les victimes, ni les bourreaux, on met de côté, on reconstruit de nouvelles sociétés, de nouvelles existences. Et puis après, il y a des concours de circonstances que les auditeurs qui l'ont pas lu découvriront. Mais c'est une histoire fascinante sur laquelle on a brodé beaucoup de bêtises aussi, hein, parce que, comme vous l'avez dit, Mengele est l'incarnation du mal, on le surnommait l'ange de la mort.
L'ange, c'est trop.
Tout est trop.
Oui, tout est trop.
On dirait un super-héros du mal, un personnage de Marvel. Mmh. Il le méritait pas.
Tout à fait. Mais il a été assez minable d'ailleurs. Vous le décrivez minable.
Bah, je raconte sa vraie vie entre guillemets. Je raconte son véritable parcours, la personne qu'il était.
Même son rapport aux femmes est minable. C'est utilitaire les femmes pour lui.
Tout est utilitaire. C'est un grand pragmatique. C'est un grand opportuniste. Et quelque part, il s'agissait aussi de déconstruire le mythe du criminel surpuissant, hyper intelligent, qui, par mille manœuvres, a réussi à échapper à ses poursuivants. L'histoire est tout autre, en fait.
C'est curieux. À un moment, vous expliquez que le Mossad a dû courir après un petit enfant qui avait disparu. Et c'est le moment où il aurait pu être attrapé,
oui.
Et donc il a eu des circonstances qui l'ont énormément favorisé.
Oui, mais parce qu'on oublie toujours que le Mossad n'est pas le service secret des juifs dans le monde, mais le service secret d'un État qui s'appelle Israël, et donc il y a des intérêts nationaux, des intérêts étatiques, qui ne sont pas nécessairement ceux des juifs de la diaspora. Et cette histoire-là le prouve.
C'est assez effrayant de penser que quelqu'un a échappé, quelqu'un d'aussi, qui était autant une cible... On a autant envie de voir puni.
C'était pas une cible.
Mais justement,
c'est l'une
ça
des
le
choses
problème.
Que je raconte, que j'ai découvertes dans mes recherches. C'était pas une cible pendant très longtemps.
Il y avait d'autres.
La réelle politique a fait que on l'a pas chassé pendant très longtemps, que beaucoup de nazis s'en sont tirés parce que très vite après la Seconde Guerre mondiale commence la guerre froide et qu'en face vous avez l'URSS de Staline qui était une vraie menace. C'était pas des blagues. Et donc, quelque part, un monstre chasse l'autre. Et donc, très rapidement, l'Ouest s'est concentré sur la lutte contre l'URSS de Staline, et en réincorporant, d'une certaine manière, ou en laissant tranquilles les anciens criminels fascistes.
Et puis, dans les années 50, les gens qui étaient rescapés des camps de concentration ne parlaient pas non plus de cette période-là.
Non, mais non seulement ils ne parlaient pas, mais ils étaient mal vus. Ils étaient mal vus parce que beaucoup de gens se demandaient pourquoi ils avaient survécu. Qu'est-ce qu'ils avaient fait pour survivre ? Est-ce qu'ils avaient payé ? Est-ce qu'ils avaient couché ? Est-ce qu'ils avaient trahi ? Notre regard a totalement changé. Là, il n'en reste plus beaucoup, malheureusement, mais
Notre regard a changé à la suite.
Non, mais ces dernières décennies, on les a regardés un peu comme des saints, comme des gens d'un courage incroyable, mais à l'époque, c'était pas du tout le cas.
Beaucoup grâce à Simone Veil, je pense, en France, non ?
Simone Veil a eu un rôle important.
Le journal d'Anne Frank.
Le journal d'Anne Frank, il y a eu beaucoup de choses. Il y a eu le feuilleton Holocauste aussi, qui a été un immense tournant dans la conscience occidentale, notamment en Allemagne, aux États-Unis, en France aussi, notamment en Allemagne et aux États-Unis. Et simplement, parce que lorsque j'étais gamin et que ces gens avaient, je ne sais pas, 60, 70, 80 ans, évidemment, on n'avait pas le même rapport que lorsque vous croisez des gens qui ont 30 ans. Et puis, les plaies étaient purulentes encore dans les années 50. Beaucoup de gens, oui, se demandaient pourquoi lui a survécu et pas mon frère ou ma mère. Qu'est-ce qui s'est passé, en fait? Il y avait une forme de jalousie aussi. Et les déportés le vivaient très mal. C'était très, très, très compliqué.
Tout ça est assez effrayant, bien sûr, et c'est vrai que s'y replonger n'est pas facile, mais je pense que la façon dont vous traitez le livre permet de ne pas avoir ce côté, effroyable, désagréable, dans lequel on ne veut pas se plonger, on veut oublier, parce que vous décrivez des ressorts. Mm-hmm. Et ça, c'est la classe de ce livre, c'est l'intérêt de ce livre. Vous décrivez beaucoup de ressorts humains dans ce livre.
J'ai une caméra sur Mengele. Je raconte cette histoire à hauteur d'homme.
C'est ça.
L'homme poursuivi, l'homme traqué, ou l'homme qui pense qu'il est traqué. Donc la paranoïa, la folie, la solitude, c'est vraiment à hauteur d'homme. C'est pas une approche macro. C'est la différence avec un essai, par exemple. Là, c'est vraiment au niveau du criminel.
En tout cas, c'est vraiment un livre passionnant. Donc je le recommande à nouveau. Alors vous avez aussi écrit un scénario.
Oui.
Alors, il faut nous raconter ça.
Bien, lorsque la version allemande de L'impossible est retour est sortie, au début des années 2010, la présentation que j'ai faite à Berlin du livre, dans la salle, il y avait un réalisateur de cinéma que je connaissais un peu de vue, c'était un ami d'amis. Et ce réalisateur est venu me voir en me disant « il faudrait qu'on travaille ensemble, qu'on écrive une histoire ». Au départ, on était parti sur une fiction, sur une famille juive après-guerre en Allemagne, et puis assez rapidement, on s'est arrêté sur le personnage de Fritz Bauer, donc qui a existé, qui était ce grand procureur à Francfort, dans le Land de Hesse, et qui est connu pour avoir instruit le procès de Francfort, du procès d'Auschwitz, qui est le plus long procès pénal de l'histoire judiciaire.
Il a duré 2 ans, je crois, c'est ça.
Oui, tout à fait. Et Bauer a eu un rôle très important, mais qui a été longtemps tenu secret. C'est lui qui a pisté Eichmann en Argentine. C'est lui qui l'a donné au Mossad. Et on est parti là-dessus. Ça a été une aventure magnifique. J'avais jamais écrit pour le cinéma. On s'est très bien entendu avec le réalisateur, Lars Kraume. Il y avait un producteur passionnant qui nous a fait confiance. Un casting incroyable. Celui qui incarne Fritz Bauer, Burghard Klausner, est un immense acteur allemand. Et c'est un film qui a eu beaucoup de prix, qui a voyagé dans le monde entier. Ça a été une aventure fabuleuse. Pour une première aventure dans le cinéma, c'était incroyable.
Olivier, qu'est-ce qu'on écoute maintenant ?
On va écouter... c'est un duo autrichien. J'écoutais beaucoup à la fin des années 90, qui pour moi s'appelle Kruder et Dorfmeister, qui pour moi incarne cet esprit de bohème européenne à l'âge où j'appartenais à cette bohème européenne.
Radio Cité Genève, Viviane De Witte.
La bouteille à moitié pleine.
Echoing. Echoing in my mind. We'll than the accused.
Time.
With your fist in my face. Tired
and
with the bitterest
Vous êtes sur Radio Cité Genève, 92.2 FM, dans la bouteille à moitié pleine, avec Olivier Guève, dont vous avez vu qu'il était journaliste, écrivain, scénariste. Olivier, on voudrait savoir, quelle est la vie de tous les jours d'Olivier Guève, globe-trotteur ? Ça, on l'a compris aussi.
Ça dépend des périodes. Il y a des périodes où je m'enferme pour écrire, où j'ai une vie de moine ou presque. Je me réveille très tôt. Je vais nager très régulièrement, presque tous les jours l'été, pas mal l'hiver.
C'est une vie qui est quel pas... endroit vivez-vous ?
Aujourd'hui, je vis à Rome. J'y suis pas beaucoup, mais récemment, depuis peu, je vis à Rome.
Pourquoi cette décision ? Alors, pourquoi Rome ?
Peut-être parce que j'estimais que tout Européen devait avoir passé quelques années à Rome, d'une certaine manière.
C'est le voyage des artistes d'autrefois.
Le Grand Tour.
Le Grand Tour.
La destination, l'une des destinations phares du Grand Tour, avec Venise et Pompéi. Parce que mes livres marchent bien en Italie, parce que je suis un nomade, un tzigane de luxe. Hein. J'aime vivre à l'étranger, j'aime déménager. Donc ça, c'est quand j'écris. Quand j'écris, c'est ce qui m'attend cet été, par exemple.
Là, vous avez donc c'est un essai ou un roman qui est en
route ? J'écris mon prochain roman.
Mon prochain roman.
Sinon, je tourne là, comme ce qui m'a amené à Genève. Aujourd'hui ou hier à Bratislava ou 3 jours plus tôt à Vienne et bientôt à
Bratislava. Pourquoi ?
Je présentais le Grand Tour à l'Institut français. Avec des partenaires slovaques, notamment l'auteur slovaque de l'anthologie. Donc là, c'est des voyages que je fais généralement quand c'est en Europe ou en voiture, parce que j'adore conduire, ou en train. Je prends très peu l'avion, je trouve pas du tout amusant et pas du tout intéressant, on ne voit rien, on ne ressent rien, on perd son temps.
Et en même temps, on nuit à la planète.
Par ailleurs, surtout, peut-être. Donc ce sont des longues semaines de promenades, d'errance européenne où, avec Mengele, j'ai tourné dans le monde entier, en Asie, en Amérique du Sud.
Alors en Asie, vous êtes allé où parler de...
Je suis allé en Chine et au Japon.
La disparition de Joseph Mengele.
Je suis allé en Chine et au Japon, et je devais aller aussi en Corée, mais ça a sauté à cause de l'épidémie, il y a 2 ans. Et c'était extraordinaire, se présenter... un livre.
Alors en quelle langue l'avez-vous présenté ?
Alors là, je l'ai en français.
Et puis vous avez mis un traducteur pour le chinois ou le japonais ?
Ouais, tout à fait. Bon, j'ai la chance de parler plusieurs langues européennes, mais...
Vous parlez donc l'espagnol, l'italien ?
Je parle l'espagnol, l'italien, l'allemand,
l'anglais
et le français.
C'est pas mal.
Pas trop mal.
Cinq langues.
Voilà, c'est correct pour un Européen, on va dire.
Tout à fait correct, surtout pour un Français.
Ah, et oui.
Parce que les Français, en général, en dehors du français et un peu d'anglais.
C'est sûr, c'est ce qu'on dit.
Alors, la journée quand vous écrivez, comment ça se passe? Parce qu'on est très curieux, vous savez, quand on n'écrit pas, on est très curieux de savoir comment un écrivain trouve son inspiration.
Ça en a l'air de l'extérieur. Peter Handke a écrit un livre qui s'appelle Un après-midi d'écrivain. Donc on est là, il y a des jours, c'est super, c'est fluide.
Se réveille le matin en se disant aujourd'hui ça va aller?
Non, non. Moi en tout cas, je vais à mon ordinateur comme quelqu'un va au bureau. C'est-à-dire, il n'y a pas de passe droit. Quoi. Même si on le sent pas, il faut.
Vous levez de bonne heure? C'est le matin que vous écrivez?
Oui, moi je me réveille très tôt en général.
Donc je me réveille très tôt. Vous mettez à l'ordinateur tôt?
Oui. Absolument. Et puis, comment ça se passe? Comme vous pouvez l'imaginer, vous êtes plus ou moins inspiré, plus ou moins distrait, plus ou moins... Mais c'est tous les jours. Il faut imaginer construire une cathédrale avec des allumettes ou un maçon qui pose tous les jours sa petite brique. Et puis, au fur et à mesure, ça grossit.
Alors, est-ce qu'on a à l'avance un peu l'idée de ce qui va se passer ou de ce qu'on veut décrire, ou est-ce qu'on le découvre au fur et à mesure? Est-ce que les personnages prennent vie au fur et à mesure?
Alors, quand j'écrivais Koskas, qui est une fiction, là où on peut dériver d'une certaine manière, mais pour Mengele ou pour le livre que je suis en train d'écrire, qui est aussi basé sur un personnage historique, là vous avez de la liberté, mais vous avez moins de liberté. Dans le sens où vous racontez une histoire précise et que, à partir du moment où vous mettez en scène un personnage historique, vous devez de respecter la réalité historique, sinon vous créez un personnage de fiction.
Vous avez raconté que lorsque vous écriviez la disparition de Joseph Mengele, vous êtes arrivé les 6 premiers mois de crier son nom la nuit.
Oui, ça a dû m'arriver quelques fois, mais c'est un salopard. Enfin, c'est même pire qu'un salopard.
Donc ça devait vous hanter quelque part.
C'est compliqué. Moi, j'ai jamais voulu. Je suis pas un spécialiste de l'Holocauste. Je voulais pas m'enfoncer là-dedans. Je pense que c'est périlleux pour certains. Je pense que c'était pas fait pour moi. Mais j'ai dû m'y plonger évidemment pour préparer le livre, parce que même si je raconte la deuxième vie en Amérique du Sud, je pouvais pas ignorer la première. Donc au début, ça a été compliqué, bien sûr. Et puis là, il a des yeux terrifiants. Il a cette aura macabre, terrible.
Oui, terrible.
Oui.
Terrible. On ne va pas raconter, on va laisser les auditeurs découvrir eux-mêmes. Mais je suis plus intéressée de savoir, dans la vie de tous les jours, alors, ces voyages, cette écriture, comment ça s'alterne, ça? Tout à coup, on vous invite quelque part et vous y allez? Où vous avez des périodes où vous décidez d'écrire quoi qu'il se passe et quelles que soient les sollicitations?
Un peu les deux. Bon, là, je voyage énormément ce printemps dans le cadre de la sortie du Grand Tour qui est vraiment liée à la présidence française de l'Union européenne. Donc, je représente aussi le livre à l'étranger. C'est très important, mais d'ici peu, oui, je vais devoir me claquemurer, m'enfermer.
Claquemurer?
Oui.
Waouh. Mon cher Olivier, vous n'avez pas l'air de quelqu'un qui se claquemure.
il va le falloir, pourtant.
Alors, est-ce qu'il est indiscret de vous demander sur quoi va porter le prochain roman?
Vous pouvez demander.
Ben, je demande.
Allez-y.
Comment?
Non, c'est un roman qui se déroule au Moyen-Orient, au début du XXe siècle. C'est une histoire de l'impérialisme britannique. C'est autour d'une femme impérialiste.
Une femme?
Oui, une femme.
On lui souhaite beaucoup d'aventures passionnantes.
Elle en a eu un certain nombre.
Oui, j'imagine, si vous vous intéressez à son sort,
oui,
qu'elle a eu beaucoup d'aventures.
C'est mieux.
C'est mieux pour le livre. Alors, qu'est-ce qu'on va dire encore de vous, mon cher Olivier Gaz? J'ai envie de terminer sur ce qu'a dit Valérie Trivelaer, sur les traces de Mengele, le talent monstre d'Olivier Gaz. Alors, on va terminer là-dessus?
Me semble une excellente conclusion.
Merci d'être venu.
C'est gentil, merci.
Merci d'être venu au micro de Radio Cité Genève. Et puis, à bientôt pour d'autres aventures.
Je reviens en octobre à Genève pour présenter le Grand Tour, justement.
Très bien, on reparlera du Grand Tour si vous nous faites l'amitié de revenir à notre micro. Et puis, merci à Olivier Steinmetz qui nous a enregistrés aujourd'hui. Et à bientôt, Olivier.
À bientôt, Viviane, au revoir.
Radio Cité Genève. Viviane DeVitt.
La bouteille à moitié pleine.